Vous écoutez France Culture.
En tout cas, les marchés financiers, eux aussi, regardent l'expérience avec intérêt et curiosité. Si jamais elle échoue, les taux d'intérêt exigés du Japon pour sa dette vont s'envoler et une nouvelle crise mondiale n'est pas exclue.
La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Réaction, commentaire, Jean-François Sabouré, pour la revue Jean-François Sabouré.
Bien écoutez, le Abe Shinzo a défini cette politique-là. Je pense qu'elle va marcher d'une certaine façon, puisque il y a toute une région du Japon à reconstruire, et là, la croissance sera là. Mais il est vrai qu'une fois que le Japon sera reconstruit, le Tohoku, ça va quand même prendre du temps. Hein. Il y a eu toute une région grande comme la région PACA, c'est quand même du travail. Mais en même temps, au bout du bout, si on ne relance pas la consommation intérieure plus, le Japon va se trouver confronté à une situation assez grave. Qui plus est, comme on lisait tout à l'heure, si toutefois il y a de nouveaux séismes, tsunamis, vous savez que on a parlé du séisme, le séisme a précédé le tsunami.
Oui. Hein,
donc il y a deux choses différentes. Oui. Si le Japon rencontre un séisme grave, on est reparti pour une situation à l'inverse. Maintenant, avec le retour de M. Abe, il dit par exemple qu'il faut permettre aux femmes d'avoir un emploi à temps complet, parce que les femmes, ce sont des consommatrices. Il y a de plus en plus de femmes qui sont seuls avec des enfants, ça aussi existe au Japon, et qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, il faut donc permettre aux Japonais de gagner plus d'argent, de mieux travailler, et donc de consommer davantage. Donc, Abenomics, c'est un mot valise, c'est le plan économique de M. Abe. Et puis, lui, il a fait une chose que je trouve plutôt pas mal, c'est une politique keynésienne de relance par les grands travaux, pas seulement dans le Tohoku, mais ailleurs. Ce que nous interdisons en France, comme vous le disiez tout à l'heure, donc la politique européenne, elle est plutôt... à la baisse, quoi, pour ces choses-là.
Brice Couturier.
Nous, effectivement, on fait exactement le contraire de ce que fait Abe. La question, c'est de savoir qui va réussir. Hein. Parce qu'il faut quand même voir, vous le disiez, le plan de Abe, c'est de faire monter le revenu disponible des ménages. Or, pour l'instant, il baisse. Parce que sous l'effet de l'inflation, qu'est-ce qui se passe? C'est que les importations d'énergie, en particulier parce que les productions d'électricité par l'énergie nucléaire sont pour l'instant arrêtées, il faut importer énormément d'énergie. Le Japon ne produit pas de pétrole, comme on sait. Et cette essence que les Japonais mettre dans leur voiture japonaise coûte de plus en plus cher. Donc, on vient de le voir, pour le 14e mois d'affilée, les salaires de base sont à la baisse au Japon. Le pouvoir d'achat est rogné par l'inflation et par des salaires qui ne progressent pas. Parce qu'en fait, c'est quand même une politique favorable au grand patronat. Hein. Il faut quand même appeler les choses par son nom. The Economist applaudit à tout rompre en disant bravo, les patrons japonais sont à nouveau à la fête, alors qu'ils étaient extrêmement mal vus par le gouvernement précédent, qui était un gouvernement de centre-gauche assez modéré.
Jean-François Sabouré.
Non, les patrons japonais n'ont pas été trop brimés même par le précédent gouvernement. Le Minshuto, disons, c'était l'aile droite de la droite. L'aile gauche de la droite, pardonnez-moi. Donc, ils n'ont pas été véritablement brimés. Mais c'est vrai que depuis 20 ans, les Japonais faisaient du surplace. Maintenant, la situation, elle est vraiment assez grave dans la région, y compris du point de vue politique, puisqu'il y a ce différend très grand avec la Chine, la Corée.
On se bat toujours autour de certaines îles.
Les îles Senkaku.
Les îles Senkaku. Donc, un enjeu diplomatique assez fort. On a bien vu d'ailleurs même que la Chine n'a pas félicité Tokyo pour l'obtention des Jeux Olympiques, avec en filigrane cette question-là des îles Senkaku.
Et des amis japonais que j'ai appelés m'ont dit, mais ça, si ça se trouve, la Chine va faire monter les enchères et ils ne participeront pas aux Jeux Olympiques. D'autres disent, non, c'est pas possible, ils participeront. Donc la tension monte dans la région parce qu'il y a des heurts industriels très forts entre Chinois, Coréens et Japonais. Cela dit, le premier partenaire de la Chine et du Japon, c'est le Japon et la Chine. Ils vendent et ils exportent. Donc de toute façon, ils sont liés les uns les autres. Et puis on ne peut pas reprocher aux Japonais ce que les Chinois faisaient il n'y a pas longtemps, de délocaliser les entreprises japonaises, puisque les Chinois eux-mêmes le font et ils délocalisent en Éthiopie. Donc il faut être sérieux. Donc là, il va y avoir peut-être qu'à la faveur, si tout marche bien, je rêve un peu mon côté japonais, à la faveur de la relance économique, qui sait, le Japon peut repasser en tête et devenir à nouveau le deuxième grand derrière, et avec la Chine derrière. Mais ça ne va pas se faire comme ça facilement.
Selon le FMI quand même, hein, la dette publique donc japonaise est colossale, hein, de se vouloir rappeler, 245% du PIB. C'est pas ce qu'on appelle un colosse au pied d'argile.
Oui, certes, mais ils espèrent qu'avec la TVA, par exemple, passant en avril 2014, va passer de 3 à 5 % ensuite de 5 à 8 ensuite de 8 à 10 % l'année suivante, ils pensent qu'ils vont pouvoir rembourser cela. Mais les Japonais, les ménages japonais disent, mais alors si véritablement la TVA augmente, on va consommer moins. Donc de toute façon, M. Abe a dit que le 1er octobre, il prendrait sa décision, donc dans 15 jours.
Mais sans doute va-t-il la prendre, parce qu'on dit que justement l'obtention des Jeux Olympiques a même un effet sur cette politique justement d'augmentation de la TVA contre laquelle les Japonais se sont opposés, ils s'y opposent, mais la victoire de Tokyo fait dire, dit un économiste responsable chez UBS au Japon, dit cette annonce de cette victoire de Tokyo va doper la popularité et va inciter cette augmentation de la TVA. Où vont se nicher les effets des Jeux Olympiques,
hein. Oui, monsieur Abe, après quand même 10 mois de pouvoir, est à 60% de taux de soutien, 59-60%, donc c'est quand même très très positif. Maintenant, les pays voisins qui sont concurrents sur des produits semblables des Japonais, chinois et coréens, taïwanais, ne vous paraissez les bras ballants. Donc là, ce n'est pas exactement la même situation que le Japon, qui était un taux de croissance important jusque dans les années 80-90. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Moi, je souhaite que le Japon réussisse, bien évidemment, parce que c'est un facteur de stabilité dans la région. Pour moi, c'est une des régions les plus dangereuses du monde, puisque vous avez toutes les grandes puissances militaires qui sont présentes. D'un côté, vous avez les Américains qui sont présents et qui sont les maîtres du Pacifique. Et donc, ils n'ont pas envie de lâcher les choses.
Moins que jamais.
Pardon ?
Moins que jamais.
Moins que jamais. Ouais. Alors, derrière les Senkaku, les Chinois tapent, si j'ose dire, entre guillemets, sur les Japonais. Mais ce n'est pas les Japonais qu'ils visent, c'est la présence américaine. Et les Américains ne se laisseront pas faire. Donc, pour l'instant, on fait du commerce, on fait du business, mais les Chinois, c'est pas seulement une puissance tellurique, mais c'est la thalassocratie chinoise. Ils veulent être présents dans le Pacifique. Le journal, vous voyez, le Courrier International, titrait il y a 15 jours ou 3 semaines, le titre c'était « La Chine achète le Pacifique ». Donc ils prennent pied dans le Pacifique. Imaginez une grande partie de Go. Qu'est-ce qui va se passer? Donc vous avez la Corée du Nord qui n'est pas résolue, le Japon qui essaie de résister comme il peut, la Chine qui parle de plus en plus fort, et puis il y a le voisin russe, qui lui vend des armes, qui ne dit rien, mais je peux vous dire qu'il est véritablement présent. Donc on est dans une région les plus dynamiques, mais aussi les plus dangereuses, pas seulement du point de vue géologique, du point de vue politique et militaire.
Brice Couturier.
Vichen, il ne faut pas oublier que Shinzo Abe est un nationaliste, hein, un nationaliste japonais. Or le Japon a été, on se souvient, soumis par les États-Unis après sa défaite de la Deuxième Guerre mondiale, soumis à une certaine démilitarisation, en échange de la protection américaine, la protection militaire américaine. Mais la question qu'on se pose en ce moment au Japon, me semble-t-il, c'est cette protection reste-t-elle crédible alors que les États-Unis aujourd'hui, leur principal partenaire, leur premier partenaire commercial et financier en Asie, c'est plus le Japon, c'est la Chine. Or, comme il y a ces tensions entre la Chine et le Japon, est-ce que le Japon ne va pas être tenté, sous l'influence de Shinzo Abe, de se remilitariser?
Le Japon, Jean-François Sabouré.
Pardonnez-moi. Abe Shinzo a eu la main tendue aux Chinois quand il a été au pouvoir la première fois. Et puis ça ne s'est pas bien passé, parce que maintenant il est plutôt pro américain. Le Minshuto, l'ancien parti au pouvoir, a voulu faire partir, le grand rêve des Japonais, quel qu'il soit, c'est de faire partir les Américains du Japon. Et une question qu'il pose d'une manière en souriant, à moitié si j'ose dire, et ils disent quand on a perdu la guerre, on l'a perdu pour combien de temps? Donc ils voudraient bien que les Américains partent chez eux. Ça veut dire qu'au Japon, il y a des gens qui sont pro-américains, mais d'autres qui disent mais on est asiatique, on est pro-chinois, pro-coréen, c'est quand même nos valeurs, on s'y retrouve. Donc il peut y avoir un basculement, et c'est vrai que si les Américains tendent la main aux Chinois, et donc les deux puissances s'entendent, y compris dans le Pacifique, que va devenir le Japon dans cette affaire-là? Donc le Japon veut s'autonomiser. On pourra peut-être parler tout à l'heure du fameux article 9 de la Constitution.
D'un mot tout de même, l'ancien Premier ministre japonais Tobishi Murayama a déclaré la semaine dernière « Je suis très inquiet du basculement vers l'extrême droite de la politique japonaise ». Et notamment, il se référait au fait que Shinzo Abe a prononcé un discours pour le 68e anniversaire de la capitulation japonaise. Mais à la différence de ses prédécesseurs, il n'a pas prononcé de regrets vis-à-vis des voisins de son pays, Chine justement et Corée. Et cela a suscité l'indignation des gouvernements concernés. Et du coup, l'ancien Premier ministre dit « voilà, il y a un basculement vers l'extrême droite ». de la politique japonaise.
C'est ce qui moi, c'est ce qui m'inquiète. Je dis que le Japon a le droit d'avoir une armée normale. Donc c'est l'article 9 qui remet en cause le Japon va résoudre les problèmes de la manière la plus pacifique. Et c'est très bien. Nous, en France, avec l'affaire de la Syrie, on pourrait de réfléchir le plus possible. Néanmoins, les Japonais n'ont pas fait amende honorable. Je disais à des amis japonais, moi je suis d'accord pour que le Japon il ait une armée normale capable d'intervenir pour défendre les Senkaku, etc., défendre son territoire, parce qu'on sait bien qu'avec les années qui viennent, la tension va augmenter. Mais avant, il faut qu'il y ait un geste, comme en Allemagne, il y a eu en 71, avec Willy Brandt, et je dis moi, en petit français, j'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai vu ça. Donc on a tiré un trait sur le passé, il s'est excusé vis-à-vis de la Pologne et vis-à-vis des Juifs de la Shoah. Et ça, c'est quand même très très important. Et les Japonais disent, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on aille en Corée? Qu'on aille en Chine, qu'on aille à Nankin, qu'on aille à Harbin, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? S'excuser? Et qui s'excuserait? Le Premier ministre? C'est pas possible. L'empereur? Absolument impensable. Donc, on est toujours là dans des excuses. Mais si on met bout à bout tout ce que les Japonais ont mis comme argent pour s'excuser, en quelque sorte, parce que c'est les excuses du carnet de chèques. Mais c'est pas ça. Il y a quelque chose véritablement sur lequel il faudrait réfléchir. Et donc, les Japonais doivent s'asseoir et discuter avec les Coréens du Nord, du Sud, avec les Chinois, avec Taïwan, pour voir quelle région la plus pacifique possible on peut créer dans la région. Et ça passe aussi quand même par des gestes très forts. Donc oui, à une armée normale, comme les Allemands l'ont, hein, une armée normale, mais avant, il faut qu'il y ait un geste comme Willy Brandt en 71.
Un autre aspect de la société japonaise, avant que nous revenions sur Fukushima, il n'y a pas que des bons chiffres que cite Brice Couturier sur l'économie japonaise. Il y a tout de même le chiffre de la démographie. Le Japon, un peu comme l'Allemagne d'ailleurs d'une certaine façon, connaît un vrai problème démographique. Est-ce que vous en connaissez les causes? Un chiffre, le taux de natalité est de seulement 1,4 enfants par femme, qui est très loin donc des 2,1 enfants par femme en moyenne, qui permet le strict renouvellement de la population. Et donc on note que la population japonaise devrait diminuer d'un tiers au cours du siècle à venir, et notamment plus de 20% des Japonais ont désormais plus de 65 ans.
Oui, les Japonais, et surtout les Japonaises, ne voient pas l'intérêt qu'il y a d'avoir des enfants, puisque quand ils vieillissent, les enfants sont au loin, ils ne s'occupent pas d'eux. Quand elles se marient, donc le mari rentre le soir très très tard, donc elles ont une vie finalement très solitaire. De plus en plus, les femmes japonaises qui travaillent veulent travailler célibataire le plus tard possible, et si possible, ne pas se marier ou se marier le plus tard possible. Donc quand on se marie à 30 ans, généralement on a un enfant, et un enfant sur deux, c'est la bonne nouvelle, c'est une fille. Donc ce qui fait que les familles qui ont une fille mettent le paquet, si j'ose dire, sur l'éducation des filles. Et on sait, en tout cas au Japon, mais peut-être dans d'autres pays, que les filles réussissent mieux à l'université que les garçons. Donc d'où la question de M. Abe Shinzo. Peut-être que là, il y a quelque chose à faire au niveau de l'emploi. Après tout, les femmes, ce ne sont que des femmes, je le dis un peu par vocation, mais elles parlent japonais, elles pensent japonais, elles achètent japonais.
Chez les auditrices. Oui, attendez, Jean-François Sabré, il n'y a quand même pas que les filles. Tenez, moi je vais vous citer une association, l'association du planning familial japonaise, oui. À noter que 36% des garçons, c'est pas les filles, qui ont entre 16 et 19 ans, n'ont, je cite, aucun intérêt pour le sexe. Allez-vous reproduire avec ça?
Oui. Parce que c'est une... Bon, il y a...
Voilà, c'est pas les filles, là, c'est les garçons.
C'est ce qu'ils disent, en tout cas. Parce que je pense pas. Si on regarde les magazines, les mangas japonaises, je peux vous dire qu'ils s'intéressent au sexe. Et puis quand ils grandissent, on les voit dans les quartiers chauds du Japon, ils ont un intérêt pour le sexe, mais qui n'est pas forcément le même que le nôtre. Mais bon, ils ont peut-être d'autres préoccupations. Disons que c'est les jeux électroniques. Mais les Japonais ont un intérêt pour le sexe et pour les filles, bien évidemment.
Brice Couturier.
Dans les années 80, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait tout un courant de l'opinion publique française qui disait qu'il fallait s'inspirer du modèle japonais. C'était par exemple le cas de Jean-Pierre Chevènement. Parce qu'à l'époque, le Japon nous semblait avoir beaucoup d'avance sur nos propres mœurs, sur nos propres modèles économiques. Aujourd'hui encore, le Japon est le pays du monde qui a le plus de robots. Est-ce que le Japon conserve cette avance technologique, intellectuelle même, par rapport à l'Europe? Et dans cette mesure-là, de quoi devrions-nous nous inspirer, à part, vous nous le disiez, de la bénomics elle-même?
Moi, je pense que on pourrait s'inspirer du Japon au niveau de l'éducation. Vous savez que 98% d'une classe d'âge passe le baccalauréat à la japonaise. Il faudrait revoir le baccalauréat à la française, puisque le baccalauréat à la japonaise est un diplôme de normalité, on va dire. C'est la moyenne des examens faits sur table à l'école pendant 3 ans, et on a le diplôme. Par contre, il y a toute une hiérarchie des universités et il y a un concours d'entrée qui est très difficile pour les 15-20 premières universités. Je rappelle qu'il y en a 800 dans le pays. Et donc, je pense qu'en France, on ne pourra pas continuer longtemps avec une université gratuite. C'est une université inégalitaire, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'université soit quand même un peu payante, un peu plus payante en France, parce que ça permettrait de répartir sur ceux qui n'ont pas les moyens de suivre l'université. Que les droits soient pratiquement gratuits en France, ça ne permet pas à quelqu'un venant des familles pauvres de pouvoir faire des études, manger, etc. On en parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est une chose dont on pourrait s'inspirer au Japon. Et au Japon, l'éducation, le maximum d'éducation, maintenant 70% d'une classe d'âge, étudie au-delà du baccalauréat. Et donc là, on est en retard de ce côté-là, du côté de la France. Donc c'est un premier point sur lequel on pourrait peut-être réfléchir. Mais la France aussi a des atouts dont on pourrait parler. Les femmes ne veulent plus d'enfants, 1,4 enfants, je crois, c'est vraiment grave. Mais là, M. Abbé a dit qu'il faudrait prendre en compte le fait qu'il n'y a pas suffisamment de crèches. Quand une femme part et qu'elle a un travail, qu'elle part, qu'elle a accouché, lui permettre de revenir comme en France. Ce n'est pas possible au Japon. Il y a une pression pour que les femmes abandonnent. Donc, si vous voulez, les femmes ne jouent plus le jeu. Donc, il y a toute une politique et ça ne va pas se faire facilement. Peut-être que M. Abbé sera capable, avec son équipe, d'un seul coup, de pouvoir faire sortir le Japon, entrer dans une nouvelle ère. Je le souhaite vivement.
Qu'en est-il de l'influence sur ces comportements, pour boucler la boucle, de l'accident de Fukushima tout de même? Et par exemple, est-ce qu'on sait ce que va faire politiquement sur cette question-là le Premier ministre Shinzo Abe, dont on sait qu'il est pro-nucléaire, alors que tout de même un des deux seuls réacteurs qui avait redémarré dans le pays depuis la fermeture progressive des centrales après la catastrophe a été à nouveau arrêté pour maintenant. Ça, c'est le 3 septembre dernier, hein, Paul Reiss. Est-ce que le Japon doit tourner, va tourner ou va continuer à produire de l'énergie nucléaire? Et peut-être rapprochez-vous de votre micro.
Juste rappeler quelques ordres de grandeur. Avant Fukushima, le Japon avait 54 réacteurs en fonctionnement. Pour comparer, la France est 58. Donc vous voyez, nous sommes dans les mêmes ordres de grandeur, sauf bien sûr que le Japon est plus peuplé que la France. Donc en termes de pourcentage de production d'électricité, en France, 75% à peu près. Au Japon, un tiers, 30% disons, 30% de l'électricité d'origine nucléaire. Donc c'est loin d'être négligeable, bien sûr. Donc au jour d'aujourd'hui, donc, tous les réacteurs, comme vous le disiez, sont arrêtés. Il est clair que les 4 réacteurs accidentés de Fukushima ne vont pas redémarrer. Donc il en reste 50. Bon, 50 réacteurs qui ne fonctionnent pas, évidemment, ça fait beaucoup d'énergie qu'on pourrait produire et qui n'est pas produite. D'où la nécessité d'importer de l'énergie, comme le soulignait tout à l'heure Brice, c'est-à-dire du gaz, du pétrole, que sais-je. D'où la montée des prix de l'énergie, etc. etc. Alors effectivement, M. Abbé est quelqu'un qui prône le nucléaire et qui a envie de redémarrer le nucléaire.
Il a envie de les réouvrir, de réouvrir le parc des réacteurs, progressivement.
Alors, il y a deux réacteurs que vous citiez qui s'appellent les réacteurs d'Oi, qui ont été redémarrés il y a quelque temps et qui sont actuellement effectivement à l'arrêt pour des problèmes de maintenance. Ça veut dire un arrêt provisoire. Donc il y a toute chance que ces deux réacteurs-là redémarrent. Bon, les autres, donc il en reste 48. Les autres vont-ils redémarrer ou vont-ils pas redémarrer? C'est toute la question. Il y a des problèmes de sûreté, il y a des problèmes d'acceptation par l'opinion.
Bon, le problème et le fait d'avoir été maintenu en léthargie pendant plusieurs mois, est-ce que ça ne crée pas des problèmes de sécurité particuliers quand on relance une centrale?
Oh non, pas vraiment, non. C'est-à-dire, on ne fait pas ça du jour au lendemain, bien sûr, mais je veux dire, une fois que c'est mis sous cocon, un réacteur peut repartir sans grosses difficultés. Bon, simplement, il faut que l'organisme de sûreté, donc l'équivalent japonais de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, donne son aval. Ce n'est pas forcément assuré pour les 48 réacteurs que j'évoquais. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a effectivement quelques-uns qui sont en bord de mer. Alors oui, on en parlait de ça tout à l'heure. Pourquoi les réacteurs sont en bord de mer? Parce que simplement, il faut les refroidir. Donc comme le Japon n'a pas de fleuve très très important...
C'est bien imprudent dans un pays habitué aux tremblements de terre, c'était bien imprudent quand même de les construire en bord de mer.
Alors simplement, il faut peut-être faire attention et prévoir des digues qu'il faut. L'expérience de Fukushima montre qu'on a été un peu laxiste à ce niveau-là. Donc il est clair que si on redémarre des réacteurs en bord de mer, on sera extrêmement attentif à cet aspect des choses.
Jean-François Sabouré ?
On connaît la politique de Mme Merkel maintenant, c'est-à-dire zéro nucléaire dans quelques années. Je ne pense pas que le Japon puisse faire la même chose, parce qu'ils n'ont pas de charbon. Et le précédent gouvernement avait dit, d'accord, vous ne voulez pas de nucléaire, puisqu'il y a un mouvement de fond avec le prix Nobel Oe Kenzaburo et Kamata Satoshi, s'appelle Bye Bye Sayonara Genpatsu, donc Bye Bye le nucléaire, c'est très bien. Ils ont dit, d'accord, vous ne voulez plus de nucléaire, donc on est obligé d'importer. Ça veut dire que la facture d'électricité va augmenter du 17 à 18%. Ça veut dire que les produits japonais, on se bat avec Abenomics pour que les produits soient compétitifs, là on les plombe, si j'ose dire, en quelque sorte. Donc les Japonais sont résignés, en quelque sorte, pour dire, bon ben, on n'y peut rien, il nous faudra du nucléaire. Donc je pense que le nucléaire ne peut que repartir, même si le mouvement est tout à fait respectable des gens qui veulent bye-bye le nucléaire. Mais on ne peut pas mettre des éoliennes partout, tout autour du Japon, même s'il y a beaucoup de vent. Je crois que c'est très coûteux. Donc les centrales nucléaires repartiront de toute façon.
Et puis les éoliennes, de toute façon, même en cas de tremblement de terre, elles disparaîtront également. Paul Reuss, sur ces questions alors.
Moi, je suis d'accord avec cette analyse, parce qu'il est clair que le Japon n'a pas d'énergie. C'est comme la France, d'ailleurs. Si on revient un peu sur l'histoire du développement de l'énergie nucléaire, on voit qu'il y a dans le monde, deux pays qui n'avaient pas d'énergie sur leur sol et qui ont fait des gros efforts de construction de centrales nucléaires, c'est le Japon et c'est la France, pour les mêmes raisons économiques et politiques.
Est-ce qu'il y a des leçons, tout de même, que l'on doit tirer aujourd'hui de Fukushima ? On en a tiré tout de suite au début, l'émotion, les grandes déclarations, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui s'est amorcé ou qui a changé ? Alors dans le monde, après Fukushima, sur cette question du nucléaire, on voit bien que les opinions publiques, très souvent, se manifestent contre, se font entendre, mais est-ce que ça a changé quelque chose dans l'appréhension des politiques publiques concernant le nucléaire ?
Il y a incontestablement un énorme effort d'information à faire auprès du public. Donc les spécialistes du nucléaire tels que moi ou tels que mes collègues, nous sommes toujours confrontés à cette énorme difficulté de faire passer un message.
Vous l'avez fait, vous, avec un livre très pédagogique.
Qui n'est pas facile à faire passer parce que...
Parlons nucléaire en 30 questions à la documentation française.
Donc chacun avec ses mots, avec sa façon d'être, etc., tente de faire un effort, mais cet effort est difficile de la part des spécialistes et de la part du public. De la part des spécialistes, parce qu'il faut se mettre à la portée de personnes qui ne sont pas des techniciens, pas des scientifiques forcément, et de la part du public, parce que là encore, ça demande un effort pour appréhender les problèmes, comprendre la problématique, accepter le risque, comparer le risque avec d'autres sources d'énergie, par exemple, et ainsi de suite. Donc c'est une très grande difficulté de part et d'autre et sur lequel nous sommes confrontés et sur lequel l'effort doit être mené sur le long terme et ne débouchera pas comme ça du jour au lendemain avec un coup de baguette magique.
Encore un effort, dites-vous, Jean-François Sabouré, on pourrait penser que les autorités japonaises tout de même feraient davantage d'efforts. On a appris hier que le parquet de Tokyo a décidé de ne pas donner suite à une plainte d'habitants de la préfecture de Fukushima qui voulait poursuivre devant la justice criminelle les dirigeants et les gérants de la centrale accidentée. Et on les a déboutés. On leur a dit tout de même que s'ils voulaient, ils pouvaient reformuler la plainte, mais plus poliment, voilà, plus doucement. Mais qu'elle ne serait pas tenue. Parce qu'on ne parle pas des morts, mais il y a eu des morts. Alors on dit qu'il n'y a pas de morts dues à Fukushima. Enfin, il y a des morts indirectes. Il y a tout de même 1400 résidents dans la région qui sont décédés après la catastrophe. Jean-François Sabouré.
Oui, Bon, le Fukushima, c'est quand même... Fukushima, c'est... Il y a 15 880 personnes disparues, morts, décédées.
Et de leur corps, 2600 à cause du tremblement de terre, du tsunami ou de l'explosion nucléaire
à cause... Non, le nucléaire n'a pas tué encore. Malheureusement, j'ose dire, le malheur peut venir maintenant. Il y a 5 ou 6 personnes qui sont décédées.
C'est 1400 personnes qui sont mortes, on dit qu'elles sont mortes, c'est des mauvaises circonstances dues
au tsunami, à la suite de séisme
Fukushima,
et tsunami.
De dégradation...
Voilà. Du tsunami ou de l'explosion nucléaire? Parce qu'il y a toujours cette ambiguïté dans les médias.
Non, le nucléaire n'a pas encore véritablement tué, si j'ose dire. C'est le malheur, il est devant. Si toutefois, il n'arrive pas à contenir, mais puisque M. Abe a promis d'injecter de l'argent et que le nucléaire n'a qu'à bien se tenir, il n'y a pas de souci. Non, ce qui est inquiétant, c'est que les Japonais ne veulent plus du nucléaire, en tout cas même les gens de Tokyo, etc. Mais même les gens dans le Tohoku disent qu'il nous faut du nucléaire. Les gens dans le Tohoku, parce qu'ils touchaient de l'argent aussi de TEPCO. Je pense que TEPCO a failli, mais bon, on va dédouaner TEPCO parce qu'ils ont des liens très très forts avec le Parti libéral-démocrate qui est revenu aux affaires. Donc les gens vont être déboutés. Mais dites-vous bien que les Japonais ne lâchent pas prise, les individus japonais. Pour Minamata, l'affaire a été connue en 1950 et on a résolu le problème des dizaines d'années plus tard. Donc on en parlera longtemps du nucléaire dans le Tohoku.
Merci Paul Resset, merci à vous Jean-François Sabouret d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle entre autres 1000 cercueils avec Otaichi, Jean-François Sabouret au seuil et Paul Resset. Donc le Parlons nucléaire en 30 questions, le petit livre pédagogique dont vous parliez, à la Documentation française. Nous irons demain soir à Tokyo, au Blue Note de Tokyo, pour écouter Chic Corea.